Germann et Martin Guibernier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette édition du 26 novembre 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Donc, ça l'a brassé un peu. Est-ce que tu peux nous parler des nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Disons que le mois de novembre a été un mois plutôt houleux, plutôt volatile. Par contre, ça va depuis une semaine, là, ça s'est bien replacé. On a eu toutes sortes de nouvelles financières là, qui ont propulsé les marchés à la hausse. Le TSX est en hausse de 2,9% cette semaine, 2,1% depuis le début du mois, 25% depuis le début de l'année. Même du côté américain, le S&P 500 est en hausse de 2,2%. On demeure en légère baisse pour le mois en cours à moins 1%, 15% à la hausse depuis le début de l'année. Du côté du Nasdaq, une hausse de 2,6% dans la dernière semaine. Quand même en baisse de 3% là, depuis le début du mois, malgré la hausse de 2,6. Qu'est-ce qui a changé la donne depuis une semaine? On a eu une annonce dernièrement à l'effet que Meta était pour acheter des TPU, donc Tensor Processing Units.
Wow, c'est quoi Martin,
cette affaire-là? Ce sont des microprocesseurs pour l'intelligence artificielle. Donc, on sait que le plus gros joueur dans le domaine, c'est NVIDIA. C'est une entreprise là, qui a eu une performance boursière incroyable là, depuis 2 ans peut-être, là, depuis ChatGPT est arrivé. Par contre, on a quelques années d'expérience derrière la cravate. On sait qu'en technologie, ben des fois, les leaders peuvent changer. Puis là, est-ce qu'on assiste à un changement de leadership? Peut-être pas, who knows. Mais donc, NVIDIA n'est plus le seul joueur dans les microprocesseurs. Donc, NVIDIA fait des GPU, Graphic Processing Unit, et Google fait des TPU, Tensor Processing Unit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune espèce d'idée. On a des gestionnaires qui sont meilleurs que nous pour connaître la technologie. On a aussi d'autres nouvelles un peu préoccupantes quand même. La compagnie HP, Hewlett-Packard, qui ont annoncé des mises à pied. 4 à 6 000 employés vont perdre leur emploi. Pourquoi? Ben, ils ont annoncé en raison des politiques tarifaires de l'administration américaine. Donc, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. On a eu plusieurs titres qui ont fait des nouveaux sommets cette semaine, entre autres Google. Donc, on a mentionné Google, NVIDIA. Google est en hausse de 15% depuis le début du mois. NVIDIA est en baisse de 13%. Là. Ça vous donne une idée quand on dit un changement de leadership. Là, c'est quand même assez un écart assez important. La Banque TD, la Banque Royale, Power Corp, Brookfield Infrastructure, toutes des titres qui ont fait des nouveaux sommets historiques cette semaine. Donc, ça va très bien de ce côté-là. J'ai sorti aussi, JP Morgan là, publie à chaque mois des informations, un paquet de graphiques là, sur les marchés. Il y en a un qui a retenu mon attention. Le top 10 des entreprises par décennie. Donc, quelles étaient les 10 entreprises et quelle proportion elles occupaient dans le S&P 500? À chaque décennie, là, 85, 95, ainsi de suite, c'est toujours là, comme 18, 20, 19, 22 %. C'est à peu près 20 %. Là. Les top 10 entreprises occupent 20 % du S&P 500. Présentement, les top 10 entreprises du S&P 500 occupent presque 40 % du S&P 500.
Wow!
Donc, c'est quand même un certain risque de concentration. Donc, quand on est un investisseur indiciel, ben on veut être bien diversifié. Est-ce que l'indice est toujours aussi diversifié qu'il l'a été dans le passé? Peut-être un petit peu moins, tu sais. Levez le capot un peu, puis allez voir c'est quoi votre indice, parce que peut-être que vous avez une forte concentration. Oui, c'est un secteur qui a très bien fait, tant mieux. Quelles sont ces 10 entreprises-là? Apple, NVIDIA, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Tesla. Donc, autrement connu sous le nom des 7 magnifiques. Broadcom, ensuite Berkshire Hathaway, la compagnie de Warren Buffett, et finalement, 10e place, JP Morgan, la plus grosse banque américaine. Donc, on a deux entreprises non technologiques dans le top 10 qui occupent les rangs 9 et 10, respectivement.
Berkshire, c'est quand même très diversifié comme
compagnie. Oui, puis 25% de Berkshire, c'est Apple.
Ouais.
Tu sais, donc, quand on parle de concentration, tu sais, t'as du Berkshire, ben oui, t'as aussi du Apple là,
ouais.
par l'entremise. Du Google aussi, parce qu'ils ont pris position dans Google dernièrement. Aucune entreprise en 1995 qui était dans le top 10 n'est présentement dans le top 10. une seule en 2005. Quelle était cette entreprise-là? Microsoft, qui est toujours dans le top 10 aujourd'hui. Il n'y a aucune entreprise, aucune autre entreprise du top 10 de 2005 qui est encore là aujourd'hui. Donc, gardez en tête, si on pense que les meilleures entreprises d'aujourd'hui vont toujours être les meilleures, l'histoire nous dit que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas.
Merci beaucoup, Martin. Ça, c'est de la bonne information, une excellente perspective. On va parler de d'autres choses aujourd'hui. Les fêtes approchent. Nous, on a mis le sapin de Noël, la semaine passée, la fin de semaine passée, malgré que tu trouvais que c'était tôt. Moi,
Un peu tôt.
ça m'a rendue joyeuse dans mon cœur. Mais c'est souvent aussi le moment où la générosité prend tout son sens. Entre les cadeaux et les bonnes actions, beaucoup se demandent, est-ce que mes dons de bienfaisance peuvent aussi réduire mon impôt? Aujourd'hui, on va vous expliquer comment vos dons peuvent faire du bien à votre cœur et aussi à votre portefeuille. Alors, servez-vous un chocolat chaud ou un café comme Martin a fait, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment conjuguer esprit des fêtes et planification fiscale. Donc, commençons par une question très simple, Martin. Pourquoi faire un don?
Bien évidemment, par altruisme, là, tu sais, on veut faire un don, on voit quand même un peu de misère autour de nous. Là, si on se promène en voiture sur Ville-Marie, ben on remarque des choses qu'on ne voyait pas dans les dernières années. Donc, il y a un besoin d'aider le prochain quand on est choyé par la société. Je pense qu'on a un devoir d'aider le prochain. Ceci dit, il y a quand même 23% des donateurs qui le font pas seulement par altruisme, mais simplement pour bénéficier du crédit d'impôt. Donc, le quart des donateurs le font principalement en raison du crédit d'impôt. Donc, c'est une façon aussi de diriger votre argent vers une cause qui tient à cœur. Tu sais, moi, le premier, des fois, je dis oui, mais je paye plein d'impôts. T'sais. Puis dans le fond, mes impôts, c'est la job du gouvernement de redistribuer mon argent. Là, oui, c'est correct. Je peux aussi dire, ben moi, par contre, telle cause me tient plus à cœur, ben celle-là, je vais la gérer moi-même, puis je vais diriger mon don directement vers la cause qui me tient à cœur. Donc, ça aussi, ça peut faire partie là, d'une des raisons de le faire.
Absolument. Et quels sont les crédits d'impôt fédéral et provincial qu'on peut obtenir en faisant un don?
Ouais, c'est pas super compliqué, là, mais c'est pas aussi simple que ça pourrait l'être. Donc, quand je fais un don de charité, bon, le premier 200 $ que je donne est traité différemment du reste du montant. Donc, si je fais des petits dons, là, 50, 100 $ ici et là, ils s'additionnent tous ensemble. Le premier 200 $ de don, le fédéral va me donner un crédit d'impôt de 15 %. Donc, j'ai donné 200, 15 %, ça fait 30 $ d'économie d'impôt. Au provincial, 20 % du premier 200 $. Donc, j'économise un autre 40. Donc, au cumulatif, mon premier 200 $, j'économise 70 $ d'impôt. Si je donne plus que 200 $, donc le montant au-delà du 200 $ au fédéral, le crédit est de 29 %. Donc là, j'obtiens le crédit d'impôt sur le taux d'impôt le plus élevé. Donc, très avantageux. Au provincial, c'est 24 % du montant excédentaire à 200 $. Par contre, si mon revenu est au-delà de 130 000 $, donc je suis au taux marginal le plus élevé, le crédit d'impôt serait de 25,75. Donc, 29 plus 25,75, là, on est rendu, on récupère quasiment le 55 %, 54 point quelques du montant qu'on a donné. C'est un crédit d'impôt non remboursable. Donc, on entend souvent ça, le crédit d'impôt remboursable, crédit d'impôt non remboursable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, un crédit d'impôt non remboursable signifie que si je n'ai pas d'impôt à payer, je ne reçois pas de retour d'impôt. Donc, je ne peux pas avoir un retour d'impôt si mon impôt est ramené à zéro. Un crédit d'impôt remboursable, par exemple, je ne pourrais avoir aucun revenu. Puis j'ai droit à un crédit d'impôt remboursable, même si je ne paye pas d'impôt, le gouvernement va m'envoyer de l'argent. Donc, un crédit d'impôt du don de charité, c'est un crédit non remboursable. Donc, je ne peux pas ramener mon impôt à zéro, là. J'ai un montant maximum de mes revenus.
Peut-être ça encouragerait les gens à donner plus si on pouvait ramener notre impôt à zéro, mais bon. Puis je pense qu'il y a un excellent point là, Martin, c'est que oui, on a l'avantage fiscal et oui, on paye des impôts, mais il y a des organismes qui ont vraiment besoin de plus d'aide que le gouvernement pourrait leur donner. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conditions et organismes admissibles?
Ben, ça prend évidemment un organisme qui est enregistré auprès de l'ARC. Donc, il y a une base de données, arc.canada.ca. Là, on peut aller vérifier comme il faut, là, est-ce que l'organisme, donc, il doit avoir un numéro d'organisme, un reçu officiel. Donc, ça, faut bien vérifier ça. Il y a aussi des fois, on va participer à un souper bénéfice, là, tu sais, un vin fromage, 500 $ le couvert. Puis on va avoir un reçu de charité. Le reçu, en fait, il va être pour la portion du don. Donc, si dans mon 500$, on juge que le souper lui-même vaut 100$, le reçu va être juste de 400. Donc, et ça, c'est normal, là. Donc, en réalité, on ne veut pas vous donner un crédit d'impôt sur un service, un bien que vous avez réellement bénéficié. Mais la portion excédentaire, on voit ça dans les tournois de golf, des fois, là, les forfaits coûtent super cher. Une portion revient en reçu de charité.
C'est un bon point, ça, Martin. Et quelles sont les stratégies pour maximiser la fiscalité que les clients peuvent utiliser?
Donc, on peut reporter des dons sur 5 ans. Donc, on vous a mentionné que le crédit n'est pas le même pour les dons en bas de 200, en haut de 200. Donc, mettons que je fais un petit don de 100$ cette année, puis un autre de 100$ l'année prochaine, puis ainsi de suite. Vous voyez où je vais en venir. Bien, au lieu de déduire 100$ à chaque année, je peux juste accumuler mes reçus pendant 4-5 ans, puis après ça, déduire un plus gros montant et là, aller chercher le taux de crédit plus élevé. Donc, d'accumuler sur quelques années mes différents dons. Il y a aussi un super crédit. Si quelqu'un là, il a jamais fait, jamais déclaré de don de charité sur le rapport d'impôt, depuis 2007, vous avez droit à un super crédit supplémentaire de 25% pour un premier don. Donc, vraiment pour encourager là, les gens à donner davantage, maximum 1 000 $, là. Donc, tu sais, si... Le montant du crédit, c'est donc si je donne 4 000, 25 % de 4 000, ça me donne mon crédit de 1 000.
Parfait. Puis est-ce que tu peux nous parler, puis ça, on en parle souvent lors de nos rencontres avec les clients comme étant une option. Est-ce que tu peux nous parler des dons en nature?
Donc, une des très bonnes stratégies à faire, c'est de donner un bien ou un titre. Donc, quand on parle des dons en nature, le « nous », dans ce qui nous concerne, c'est souvent des actions cotées en bourse ou des fonds communs de placement. Par contre, ça s'applique aussi à une œuvre d'art, à un terrain. Mon ancien collègue a déjà donné un orgue. Donc, un bien qui est un petit peu plus difficile à vendre, mais qui a quand même une très grande valeur, donc a fait un don à une université, puis a obtenu un crédit d'impôt en conséquence. Donc ça se fait. Bien souvent, on va donner une action. Donc là, je vous donne un exemple. Là. J'ai acheté des actions dans mon compte non enregistré, évidemment. Il y a quelques années, j'ai payé 2 000 $ pour mes actions. J'ai acheté, mettons, des Nvidia. Ça a super bien été. Ça monte, ça vaut 10 000 aujourd'hui. Ben, si je vends mes actions qui valent 10 000, ben, j'aurai 2 000 $ d'impôts à payer. Hein. J'ai un gain de 8 000, la moitié imposable, 50 %, donc j'ai 2 000 d'impôts à payer. Je pourrais aussi dire, ben, je vais prendre mes 10 000 $ d'actions d'NVIDIA, puis je vais les donner à la Société canadienne du cancer, mettons. Donc là, je suis exempté de l'impôt à payer sur le gain en capital. J'ai pas d'impôt, là, c'est je donne mon 10 000, j'ai droit au crédit d'impôt de don de charité sur le plein 10 000, mais je n'ai pas l'impôt à payer sur le 2 000. Combien de crédits d'impôt je vais recevoir? Ben, le premier 200 à 15 et 20 le reste à 29 et 25. Donc, en tout, là, je vais aller chercher 5 435 de crédits d'impôt pour mon don de 10 000, plus le 2 000 d'impôt que je n'ai pas payé sur mon gain en capital, que si j'avais fait un chèque, là, j'aurais payé ce 2 000-là. Donc, en tout, mon 10 000, je récupère 7 435 d'impôts, soit sous forme de crédit ou d'exemption d'impôts sur le gain en capital que je n'ai pas payé. Fait que c'est quand même comme quasiment le trois quarts du montant que j'économise. Ben, les plus fités vont dire « Ouais, mais je suis quand même 2 500 en short. » Oui, c'est oui. Oui. Il y a une partie altruiste, il y a une partie de vouloir redonner. Donc,
puis plusieurs de nos clients veulent redonner.
Ouais.
Et on leur dit souvent, appelez-nous avant de le faire, puis on va trouver une façon. Il y a des organismes, puis si vous êtes sur un conseil d'administration d'organismes, etc., qui n'ont pas de compte de courtage, donc qui ne peuvent pas accepter ce genre de don-là, moi, je recommande vraiment aux organismes de se mettre dans une situation où ils peuvent accepter ce genre de don-là parce que ça donne vraiment accès à une population qui serait intéressée à donner. Et c'est vraiment donnant-donnant des deux côtés, cette méthodologie-là de faire un don.
Exact. Concrètement, comment ça marche? Là, t'sais, vous allez communiquer avec l'organisme de bienfaisance, ils vont vous donner un formulaire avec les coordonnées de leur compte de courtage. Vous nous appelez, vous nous donnez ça, on vous fait nous signer notre formulaire interne, puis on va transférer les actions à l'organisme de bienfaisance. Eux, ils vont vous donner le montant du crédit à la valeur des titres à la clôture de cette journée-là. Donc, tu sais, ça se peut que ce n'est pas 10 000, c'est 9 900 ou 10 100, tu sais. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, évidemment, ils vont vendre les titres le lendemain matin, là, tu sais, puis ils vont prendre l'argent, puis ils vont faire ce qu'ils ont à faire avec. Donc, ça prend un compte de courtage, c'est pas très compliqué. Je pense que ça va donner le conseil, là. Organisez-vous, là. Si vous êtes un organisme de bienfaisance, allez vous ouvrir un compte de courtage.
Bien, puis il y en a qui vont garder les actions. Il y a différentes façons de donner. J'ai déjà vu quand j'étais sur un conseil d'administration, quelqu'un qui a dit, moi, je vais donner à la fin de ma vie, mais je veux continuer à gérer les fonds. Donc, il y a des façons de faire qui arriment vos passions. Peut-être vous avez une passion de gérer des actions puis un portefeuille avec le fait que vous voulez donner en fin de vie aussi. C'est quoi la date limite et est-ce que tu peux nous donner quelques conseils à propos des dons et des reçus pour les dons?
La date limite, c'est le 31 décembre. Donc, c'est pas comme un REER. Autre, l'année passée, là, on a eu une petite exemption. On se souvient qu'il y avait une grève des postes, là. Donc, c'était difficile d'envoyer son chèque de don quand la poste est fermée. Donc, il avait permis d'appliquer les dons jusqu'en février sur l'année précédente. Là, c'est pas le cas. Là. En général, c'est 31 décembre. Il faut que le don soit fait et le reçu dans nos poches. Pour tous les types de dons en espèces, en nature, une œuvre d'art, peu importe c'est quoi, là, il faut le faire avant le 31 décembre. Ça prend des reçus, donc il faut demander son reçu, il faut garder son reçu aussi. Il faut le garder, bon, généralement environ 5 ans. Si je fais mon rapport d'impôt en papier avec un crayon, là, comme il y a encore quelques personnes qui le font, il faut que j'envoie ce reçu-là avec. Mais quand on fait électronique, là, on ne les envoie pas les reçus. Hein. L'ARC reçoit une copie de ces reçus-là, mais on doit quand même le garder et le fournir. C'est aussi suggéré, moi, je n'ai pas vécu ça, là, mais de garder aussi la preuve du paiement. Donc, non seulement d'avoir le reçu de l'offre de charité, mais mettons, j'ai fait un chèque, un relevé de compte de mon don pour prouver que c'est pas juste un reçu que l'organisme a donné un peu sans valeur. Là, j'ai réellement fait un don. L'Agence du revenu veut s'assurer que on n'obtient pas un avantage fiscal plus élevé que le don réel. Là. T'sais, y a un aspect d'évitement fiscal là, qui n'est pas permis. Là. Y a toutes sortes de stratégies des fois où on vous fait miroiter que vous donnez 10 000 puis vous allez recevoir 20 000 d'impôts. C'est pas légal, là, ça. C'est sûr que ça ne marchera pas, cette affaire-là. Donc, faites attention à ces choses-là. Donc, on garde le reçu en bonne et due forme. Et encore là, vérifiez sur le site de l'ARC si l'organisme de bienfaisance est dûment enregistré. Là, t'sais, créer un faux reçu, ça prend 2 secondes sur un ordinateur. Hein? Donc, faites attention, allez vérifier. Évidemment, les grandes sociétés, là, les Centraides, Société canadienne du cancer, pas de stress avec ça. Mais des plus petits organismes de bienfaisance, là, allez donc vérifier pour être sûr que c'est dûment enregistré auprès de l'ARC.
Puis, vous pouvez aussi vérifier qu'est-ce qui doit être inclus sur le reçu. Mais normalement, les organismes de bienfaisance sont très, très bien informés à ce
Exact.
niveau-là. Donc, merci beaucoup, Martin. Les dons charitables offrent réellement un bel équilibre entre bénéfices fiscaux et impact humain. On vous encourage à donner à ce temps-ci de l'année. Tout au long de l'année, il y a plein d'organismes qui ont besoin de votre support. À nos clients et partenaires, si vous avez des questions sur ce sujet ou si vos objectifs financiers, contactez-nous. Laurie, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes là pour vous aider. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.